BPM, le journal d'information locale.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal quotidien sur BPM. Dans l'actualité de ce jeudi 5 novembre, nous commençons par Mantes-la-Ville. Un homme a été agressé à son domicile. Au chapitre environnement, la plaine de Chanteloup est presque entièrement nettoyée. Au niveau santé, des chiens des sapeurs-pompiers des Yvelines apprennent à identifier la Covid. Nous parlerons du viaduc de Guerville. L'autoroute comprend désormais 4 voies de circulation. Et puis nous nous intéresserons au commerce de proximité non alimentaire durement touché par le confinement. Nous écouterons Éric Rouleau, maire de Limay, Arnaud Léonard, président de l'association des commerçants Cœur de Mantes, et Pierre Bédier, président du département des Yvelines. On commence donc par Mantes-la-Ville. Un entrepreneur de 44 ans a été agressé à son domicile en début de semaine. Selon Le Parisien, deux faux livreurs de pizza ont sonné à sa porte, dont l'un muni d'une arme à feu. La victime a été braquée par l'un des malfaiteurs, mais elle s'est ruée sur le porteur du pistolet. Les deux individus ont pris la fuite. Une plainte a été déposée au commissariat de Mantes-la-Jolie. Parlons environnement. La vaste décharge à ciel ouvert, située entre Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes, a presque entièrement disparu. En un peu moins d'un an, environ 26 000 tonnes de déchets déversés sur près de 330 hectares ont été enlevés. Le reste de l'amiante sera retiré vers mi-décembre. Selon une estimation, près de 900 tonnes de ce matériau s'étaient accumulées. Les travaux avaient été entrepris en janvier dernier. Une plateforme de tri avait été installée sur place pour assurer l'enlèvement des déchets. Désormais, le département des Yvelines va travailler pour reconstruire l'espace. Une étude sera d'abord lancée autour de la faune et de la flore qui est présente. Par la suite, une commission composée d'élus, d'associations locales et d'organismes spécialisés travailleront sur la pollution des sols, le développement économique, la valorisation paysagère et l'organisation d'une consultation citoyenne. La commission présentera alors un projet de réaménagement de la plaine. L'hypothèse privilégiée est la création d'une forêt et l'installation d'activités autour de la filière bois. Santé. Les chiens de l'unité cynotechnique des sapeurs-pompiers des Yvelines sont formés à identifier l'odeur de la Covid-19. Le journal Actu 78 rapporte qu'à l'aide d'une compresse stérile placée 10 minutes sous l'aisselle humaine, le chien peut immédiatement signaler si la personne est positive. Cette identification permettra de diminuer le nombre de tests PCR grâce à une identification en amont par les équipes cynotechniques. Depuis un mois et demi, 5 des 7 chiens du SDIS 78 participent au projet Nosaïs Covid-19 à Maison Alfort en Seine-et-Marne. Formés pendant une durée de 8 semaines, les chiens auront par la suite des formations régulières, notamment pour assimiler l'évolution de la molécule odorante du coronavirus. Un mot sur les autoroutes. Après plusieurs années de travaux, l'axe Paris-Normandie rouvre aujourd'hui dans une configuration quasi normale en direction de la province. Au niveau du viaduc de Guerville, il y a désormais 4 voies de circulation contre 3 auparavant. En outre, le flux de véhicules sera divisé en deux. Un viaduc de 2 voies sera réservé aux véhicules légers et un autre côté Seine sera obligatoirement emprunté par les poids lourds. La circulation fusionne de nouveau juste avant l'arrivée sur Mantes-la-Ville. Cette distinction devrait fluidifier le trafic et améliorer la sécurité des lieux. Une bande d'arrêt d'urgence inexistante jusqu'à présent sera notamment dessinée. En attendant l'accord ministériel, la vitesse continue d'être limitée à 90 km/h. Nous terminons ce journal par le chapitre économie. À Limay, le maire Éric Rouleau a pris un arrêté visant à permettre aux commerces non alimentaires et non essentiels de rester ouverts. Le tribunal administratif doit juger si l'arrêté est valide ou non. Le maire nous explique le sens de sa démarche.
Faire savoir mon opposition à la liste du gouvernement par rapport au commerce dit essentiel. Et moi, je suis pas d'accord avec cette liste-là. J'ai pris cet arrêté pour dire que je suis opposé à la façon dont le gouvernement entend donner cette affaire. L'arrêté, il a été déféré par le préfet. Donc maintenant, c'est sur le bureau du juge du tribunal administratif qui devra effectivement déterminer si mon arrêté est valable ou pas. Moi, je pense que c'est dans la proximité qu'on se protège le mieux contre le virus, parce que ce sont des petits commerces où il n'y a pas la possibilité d'accueillir des centaines et des centaines de personnes. Hein. Moi, quand je vais à la librairie, quand je croise 3 ou 4 personnes dans les rayons, c'est tout. On veut nous faire croire que ça serait le pire, mais quand on regarde les choses de près, bon, les écoles sont ouvertes, les entreprises, pour un certain nombre, continuent de fonctionner, et la petite librairie indépendante de quartier, on peut pas la laisser ouverte, mais c'est du grand n'importe quoi. Moi, ce que je crains, comme beaucoup, c'est que si effectivement le tribunal administratif va dans le sens du gouvernement, c'est-à-dire de fermer ces magasins, on va se retrouver dans une situation très compliquée. Et il y en a qui m'ont déjà dit, si c'était le cas, eh bien, ils fermaient pour tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des centralistes qui vont perdre leur commerce alors qu'on a eu du mal à les garder, on a eu du mal à en attirer des nouveaux. Et par cette mesure stupide, eh bien, on risque de mettre à mort ces magasins. Mais je trouve que les juges, dans cette affaire, peuvent inverser ce processus destructeur pour laisser les petits commerces fonctionner. Moi, j'ai fait le tour, je vais les voir. Tous ont mis en œuvre des mesures pour les gestes barrières, pour se laver les mains, pour respecter les 4 mètres carrés, etc. Enfin, il faut arrêter et faire confiance, et surtout écouter les maires.
À Mantes-la-Jolie, les commerçants sont pessimistes quant à leur avenir. Selon eux, les aides de l'État ne sont pas suffisantes et les commerces de proximité présentent moins de risques sanitaires que les grandes surfaces. On écoute Arnaud Léonard, président de l'association des commerçants Cœur de Mantes.
Déjà, les 15 jours, c'est juste pour nous mettre de la pommade parce qu'on ne sera jamais ouvert dans 15 jours. Et moi, je pense que ce sera 6 semaines, mais on verra. J'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer parce que s'ils nous proposent encore les 1 500 €, bah oui, ça nous aide pour le loyer. Mais ça nous aide pas pour les crédits, ça nous aide pas pour nos versements de salaire, ça nous aide en rien. Nous, on n'a pas envie de vivre que d'aide, on a envie de travailler et gagner de l'argent. L'aide sert juste à conserver le local, mais on n'a pas de revenus. Si c'est encore un prêt, c'est inutile, parce qu'on a déjà eu un prêt qui a servi à rien, puisqu'on est en train de tout perdre, et que l'on va devoir rembourser l'année prochaine. On pourra jamais le rembourser l'année prochaine, c'est impossible. Donc oui, c'est vraiment des aides plus fortes que l'on attend. On va rouvrir au mois de décembre, tout le monde va se retrouver en famille, et après il se passe quoi? On va refermer en février ou en mars? Surtout que tout le monde est ouvert, toutes les grandes surfaces, Fnac Darty, tous les magasins de bricolage, tous les hypermarchés, tout le monde est ouvert. Hein. C'est pas parce que nous avons 2 ou 3 personnes dans le magasin qu'on peut faire un cluster, c'est impossible. Je vois pas ce qu'on peut renforcer de plus parce que nous le protocole il était là. Les gens ont des masques, les mains sont lavées, il n'y a pas de cluster chez les petits commerçants, contrairement aux sociétés. Et les sociétés restent ouvertes et pas les petits commerçants. On marche sur la tête.
Même son de cloche du côté des départements, nous vous le rapportions en début de semaine, les présidents des départements d'Île-de-France ont adressé une lettre au gouvernement dans laquelle ils réclament la réouverture des commerces non alimentaires des centres-villes. Le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, alerte sur les risques d'une fermeture prolongée de ces commerces.
On considère que ces commerces mettent en œuvre des gestes barrières de façon extrêmement efficace. Ils sont d'une extrême prudence, ne serait-ce que parce que les propriétaires de ces commerces sont souvent leurs propres patrons, c'est-à-dire ils sont à la fois le patron et le salarié. Donc si l'un est malade, l'autre est aussi malade. Donc ils n'ont aucun intérêt à ne pas être prudents. Et rien ne prouve que ces petits commerces soient des clusters, au contraire. Donc on laisse ouvrir des grandes surfaces, qui par définition vont accueillir beaucoup plus de monde et donc multiplier les risques, alors que dans le petit commerce, on voit bien que les gestes barrières, le fait qu'il n'y ait que 2 personnes dans les commerces est respecté. Qu'on maintienne la fermeture des bars et des restaurants, dont il semblerait qu'ils aient été des accélérateurs, enfin il ne semble pas, ils ont été des accélérateurs de diffusion du virus, incontestablement. Pas le petit commerce textile, la librairie, etc. Ça va conduire à la mort de ces commerces, qui sont dans un état de difficulté extrême, et après, une fois que ces commerces sont morts, ils seront remplacés. Et ils seront remplacés par des activités qu'aucun maire ne souhaite, qui sont des activités bruyantes, des activités bas de gamme, des activités de sandwicherie, des activités de fumerie. C'est dramatique pour la qualité de vie de nos concitoyens. Moi, je vais à ma boulangerie. La boulangère nous demande d'être 2 dans la boutique. On porte le masque. Elle est derrière son plexiglas. On voit bien qu'elle respecte les gestes barrières. Quand je vais dans ma librairie, quand j'allais, puisque je peux plus y aller, bah, elle faisait la même chose. Donc, pourquoi il y en a une qui peut ouvrir? Bah, parce que si on peut plus se nourrir, on meurt. Mais si on peut plus lire, c'est une autre façon de mourir. Donc, on voit bien ces commerces respecter toutes les règles sanitaires. Pourquoi les sanctionner? En plus, psychologiquement, ça les désespère. Hein, donc, ça leur donne envie si même l'État a injecté des fortunes dans cette affaire, ce qu'ils ne mesurent pas, c'est qu'ils cassent leur morale. et qu'en cassant le moral, le petit commerçant qui est tout seul chez lui, il a personne pour lui remonter le moral. Et donc, si vous le désespérez, il ferme. Voilà. Et il n'est pas prêt de réouvrir.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.